Voilà.
Ça va ? Vous n'avez pas eu de coupure ?
Il y a dû y en avoir une toute petite, mais qui est vraiment pas longue.
D'accord, parfait. Et vous vous rappelez de toute façon si jamais... Oui, oui alors, oui. Alors non, oui, moi j'ai travaillé donc dans la maison d'édition de l'État et j'étais chargé surtout de, disons, d'évaluer les nouvelles initiatives, les nouveaux types de revues que lançait la maison d'édition, parce qu'il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une revue pour jeunes, où travaillait Michel, pour les revues féminines, les revues d'actualité, etc. Donc il y a eu tout un ensemble d'initiatives intéressantes, en dehors du fait que la maison d'édition de l'État a publié autant de livres en 3 ans qu'il s'était publié pendant 100 ans. Alors c'était toute une démocratisation de la culture, donc il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et moi, j'avais la charge d'une équipe qui évaluait un peu comment étaient reçues, comment les critiques par rapport à tout ça, et toutes les contradictions peut-être de ce type de réforme. Michel et l'autre, l'Argentine qui travaille dans notre équipe, travaillaient aussi à la section des scénarios à la télévision publique. Qui n'était pas aux mains de l'unité populaire, qui était partagée, puisque c'était, disons, des quotas selon les partis, c'était organisé selon, un peu comme la RAI, le loteo de la RAI, à l'otazione, ou une chose comme ça. Bon. Alors donc c'était aussi très contradictoire, parce qu'on ne contrôlait pas les médias. D'abord, Allende ne pouvait pas, il ne voulait pas, puisque c'est la première expérience où finalement les médias sont restés complètement libres. Et c'est d'ailleurs un pacte que Allende avait souscrit avec la démocratie chrétienne pour être élu, pour être finalement adoubé par le Parlement, c'est qu'il y avait un pacte de garantie constitutionnelle dont la liberté d'expression était vraiment le socle. Le problème, c'est que l'opposition a utilisé cette liberté d'expression de façon tout à fait à son avantage. Et disons, tout le problème des médias, disons, la gauche... n'ayant accès qu'à très peu de médias, par exemple au niveau radio, pratiquement pas, c'est encore finalement aussi la période, où la gauche ne pensait qu'en termes d'écrit. C'est encore la culture de l'écrit de la gauche. Alors, ce qui est, à l'intérieur même des problématiques qui ont été les miennes durant l'unité populaire, il y a eu effectivement toute cette période d'évaluation, des produits finalement, des nouvelles initiatives en matière de publication de revues. Mais, disons, progressivement, je me suis de plus en plus intéressé sur la façon dont le mouvement ouvrier, disons, et les nouvelles formes d'organisation ouvrière, notamment les cordons industriels, etc., qui ont surgi à partir d'octobre 62, comme réponse à l'offensive de la bourgeoisie, du front grémialiste, la façon dont ces nouvelles organisations s'emparaient de la question des médias. C'est-à-dire comment ils créaient leurs propres organes d'information et comment ils installaient aussi toute cette pratique des correspondants ouvriers ou des correspondants paysans. Et disons que je dois dire que dans les 6 ou 7 derniers mois, parce que c'est vraiment à ce moment-là ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Il faut le temps, il faut voir aussi que les contradictions mûrissent à l'intérieur de la politique d'unité populaire, etc. La question de la radicalisation à partir de la radicalisation de l'opposition, etc. J'ai travaillé fondamentalement sur qu'est-ce que c'est que finalement un média qui correspond à ce qu'on disait, la dévolution de l'habla al pueblo, c'est-à-dire la prise de parole par d'autres secteurs. Voilà, ça c'est en fait la genèse en fait de ce pourquoi je me suis intéressé sur les médias. Il y a une dernière chose, c'est au Chili que la réalité vécue du Chili m'a orienté progressivement vers l'analyse aussi des structures transnationales de la communication. Pour la simple raison, j'avais déjà eu cette intuition lorsque je faisais, je travaillais sur les études de population démographique, mais là, ça s'est révélé, disons, très fortement, c'est, disons, toutes les campagnes des agences de presse, et pas seulement des agences de presse, mais des grands groupes de communication contre le gouvernement populaire, qui pendant 3 ans ont bombardé systématiquement le Chili, disons, qui ont organisé des campagnes vraiment de diffamation. Les agences de pub, c'est-à-dire que l'opposition, disons, avait recours réellement à des grandes agences de publicité pour ses campagnes, etc. Et c'est tout ça que j'ai vu fonctionner. Tout ça que j'ai vu fonctionner. Et c'est dans la suite de ça que, d'ailleurs, que j'ai fait mes premières études, presque comme une expertise pour le gouvernement, sur la structure de pouvoir transnational. Et disons que c'est de ce moment-là que datent mes relations avec le milieu académique, les universitaires critiques américains sur la question des médias, et fondamentalement, ça a été à travers des gens comme Gertner, comme Schiller, et Dallas Mind, ou Gubak. Ce sont ces gens-là qui ont été, mes correspondants, et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu commencer à construire une analyse de cette structure transnationale de la communication. Je crois que c'est important le phénomène Chili, non seulement, c'est important pour deux choses. D'abord parce que je crois que c'est vraiment un moment qui anticipe ce que va être, disons, la globalisation des communications. Disons que c'est comme un laboratoire où on voit tout d'un coup fonctionner des médias qui deviennent, à propos d'une initiative de réforme, qui lancent des campagnes globales, etc. etc. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est à partir de là, à partir de l'expérience chilienne, que les Nations Unies vont réfléchir et vont créer un centre d'études transnationales qui, par après, sera supprimé avec la vague de privatisation. De privatisation, oui, même à l'intérieur des Nations Unies. Et la seconde chose que m'a apporté le Chili, c'est, un constat. Le constat que, finalement, la question des médias avait été très peu théorisée, et pas seulement théorisée, mais très peu pratiquée par la gauche. Par la gauche, disons qu'il y en avait une vision très instrumentaliste et surtout une vision qui était très marquée par les pratiques de l'agitation et de la propagande. Or, au Chili, nous ne pouvions plus nous satisfaire de ça, puisque le Chili était fondamentalement, un pays où les médias étaient complètement libres, et donc les gens étaient imprégnés en plus par une culture quotidienne qui était la culture de masse. La culture de masse. Pour eux, c'était une réalité vécue, et donc nous ne pouvions pas nous abstraire de cette réalité. Et donc, c'est un constat des limites de la gauche. C'est un constat important là-dessus.
Y compris, me semble-t-il, là on va sauter quelques années, mais il me semble que cette prise en charge de la question des médias, de la question de l'idéologie, etc., de la vision des médias comme instrument de la domination du pouvoir, est finalement de moins en moins prise en compte. Enfin, il y a une espèce de renouveau à la fois que moi qu'il y ait d'une part par le renouveau de la critique sociale, le mouvement altermondialiste, l'émergence d'Internet, etc., et une facilitation de la prise de parole, une espèce de renouveau des médias alternatifs depuis quelques années, qui prend en charge cette question-là. Il y a un renouveau de la critique des médias, mais dans le champ politique, pour les partis et la gamme de partis, par exemple, qu'on a dans le champ politique français, cette question-là est très très peu traitée.
Oui, là...
Il y a une régression terrible, par exemple, entre le programme que peuvent avoir des forces politiques progressistes ici, et puis le programme commun de la gauche, par exemple.
C'est tout à fait exact. Là, je crois réellement, effectivement, qu'il y a une régression. Quand on regarde, effectivement, les programmes de la fin des années 70, ouais. C'est vrai, là, on peut même lire les textes, c'est d'une clarté. Oui, ça, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. C'est vrai qu'il y a... il y a un abandon. De façon, je vais vous dire une chose. Hein? Il me semble que de toute façon, quand on regarde à travers le monde, sur l'évolution des états de conscience par rapport à ce problème de l'idéologie, de la culture, de l'information, des médias, tout ce problème qu'on appelait superstructurel qui est devenu de plus en plus très matériel, hein, même si aujourd'hui on l'appelle immatériel, dans l'industrie de l'immatériel, etc. Il me semble que de toute façon, l'évolution des états de conscience n'a jamais atteint une masse critique. Je crois que c'est quand même très isolé, les prises de conscience. On le voit d'ailleurs déjà encore aujourd'hui dans les forums sociaux, c'est finalement souvent des gens qui sont branchés depuis un certain temps, des réseaux qui sont branchés depuis un certain temps. Par exemple, je parle Amar, mais il y a beaucoup d'autres. Hein. Ce sont même ceux qui s'agrègent dans la campagne CRIS, ce sont des gens qui sont, si on veut dire, ils sont rompus à la question des médias. Alors, je crois que, historiquement, ça a toujours été, à l'intérieur des mouvements ouvriers, encore plus, mais même des mouvements sociaux, des isolats, des enclaves. Je ne crois pas, sauf peut-être à un moment, il y a eu des moments privilégiés, comme par exemple, à un moment, la problématique des radios libres. Et c'est vrai que la radio libre était débordée complètement, débordée uniquement le cercle des radioteurs, si on veut. C'est vrai. Mais disons qu'on peut dire que, historiquement, c'est quand même chaque fois des prises de conscience de groupes qui, professionnellement ou politiquement, se sont engagés. Mais politiquement, ils s'engagent parce qu'ils manient l'outil. C'est vrai qu'il y a eu une progression, par contre, de la réflexion dans certains cercles qui n'a pas été versée, disons, dans des pratiques politiques. Et une troisième chose que je dirais, c'est que aussi, et là je crois que c'est fondamental de le dire, c'est que je crois que même à l'intérieur de ces cercles qui ont un état de conscience sur l'importance des médias, l'importance stratégique des médias ou de la culture, il y a aussi, dans certains groupes, encore les traces de ce que j'appellerais le basisme, c'est-à-dire la réticence à théoriser et à prendre la théorisation, la formalisation théorique comme une étape importante dans la critique des médias et dans l'action sur les médias. Et je me parle pas, quand je parle de médias, vous l'avez bien vu, c'est aussi tout le domaine. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais au début. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la question des médias, c'est pas seulement les médias. On le voit très bien dans les organisations internationales. Quand on discute de la question des médias, il y a tout de suite se ramène la question plus fondamentale, qui est tout le problème de l'architecture des réseaux mondiaux. La question de la culture, diversité culturelle, etc. À tel point que c'est difficile de même de comprendre, quand on n'appartient pas à ce domaine, il est difficile de rassembler les pièces et de voir que l'enjeu est là, est réellement global. Et je crois qu'effectivement... il y a quand même une contradiction là-dessus. Je crois qu'effectivement, et ça dans tous les pays, je crois que c'est vraiment mondial ça, il y a de plus en plus un ensemble de personnes, et ils sont de plus en plus nombreux, qui, disons, saturent face aux médias. Il y a une critique, des médias, presque quotidienne. Vous voyez, c'est une pratique quotidienne. et dans beaucoup de milieux. Et dans beaucoup de milieux. Il y en a de ceux, évidemment, formalisent plus leur critique. Et ça prend, une tournure politique. Mais le problème clé, et c'est vraiment un problème qui me paraît essentiel, c'est que c'est la difficulté de passer d'une réaction de ras-le-bol à la structuration d'une organisation collective qui permet finalement d'intervenir sur cette question. Et l'autre chose qui est difficile, c'est que en matière de médias, il y a effectivement toutes ces représentations négatives des médias qui circulent. Mais disons, beaucoup de ces représentations négatives peuvent verser, et c'est pour ça que la médiation de la théorie est fondamentale, peuvent verser, disons, dans ce que j'appelle, moi, un certain populisme. Et c'est ça, c'est un sujet très difficile, la question des médias. Parce qu'en même temps, tout le monde est susceptible d'avoir une lecture critique des médias à partir de sa propre pratique, mais en même temps, cette première lecture ne suffit pas. Il y a la nécessité d'organiciser, dans le sens d'organiser un intellectuel organique collectif qui permette finalement d'aller au-delà. Et c'est là le défi aujourd'hui. Vous allez me dire, ce n'est pas seulement la question des médias. Ce n'est pas seulement la question de la culture, etc. Il y a beaucoup de domaines où finalement, et c'est tout le grand problème, qu'est-ce que finalement, quelle société nous voulons et en quoi consiste pour nous la notion de résistance. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un ensemble d'institutions qui se créent, de structures qui se modifient pour nous imposer finalement des modèles et des techniques de contrôle social, des contrôles sociaux par la bande. C'est-à-dire finalement sans que, de façon indolore. Pourquoi ? Par accoutumance. Et le problème aujourd'hui, le grand ennemi, c'est sans doute l'accoutumance. Il y a des accoutumances qui font qu'on trouve naturel ce qu'on n'aurait jamais trouvé, et ça sans nostalgie, naturel, normal, dans les années 70. Dans les années 70, rappelez-vous, il y a eu tellement de rébellions, non seulement Radio Libre, mais aussi toute la contestation d'un mode d'informatisation, etc., etc. Et c'est vrai que, aujourd'hui, les organisations qui s'en occupent, il y en a toujours, heureusement, mais disons, c'est vrai, ont difficile pour dépasser le cercle d'initiés, on pourrait dire, d'initiés. Sans que ce terme ait...
Il y a une contradiction forte, en fait, entre, d'une part, enfin, moi, de ce que j'en vois, d'une part, une nouvelle dynamique, quand même, ces dernières années, sur... Enfin, on n'a jamais autant vu, comme vous le soulignez à l'instant, de gens qui s'organisent pour faire la critique des médias.
Tout à fait.
Quid de l'OFM, d'Acrimed, faire aux États-Unis, il suffit de faire un petit tour sur Internet, taper critique des médias dans Google, on trouve un tas de choses, on en découvre tous les jours, c'est vraiment pléthorique et foisonnant. Donc il y a ce phénomène-là. Donc de fait, la critique des médias maintenant est une espèce de cause transverse, y compris dans les luttes sociales, où il y a vraiment un accord sur cette question-là, sur l'importance des médias et puis de en tant qu'instrument de la domination, etc., et d'en faire une critique. Il y a à la fois une régénérescence assez forte des médias de la critique, des médias alternatifs, radicaux, peu importe comment on les appelle. En tout cas, il y a un foisonnement aussi qui pour beaucoup tient aussi aux nouvelles technologies, à l'Internet, à la facilité par laquelle... À l'open.
Oui, tout à fait, c'est fondamental, ça, cette toile de fond. Oui.
Ça c'est évident. Là où on reste vraiment très très faible, c'est que finalement, cette critique, y compris organisée et en acte, et ces médias alternatifs, et la critique des médias, ne s'accompagne pas d'une volonté qui pourrait être là, justement, portée par les syndicats, les partis politiques, plus largement les associations, de réforme radicale de l'espace médiatique tel qu'il est critiqué. C'est-à-dire qu'il y a un découplage entre une espèce de dynamique qui se crée
tout à fait.
Entre la critique et les médias alternatifs, avec d'ailleurs des positions qu'on retrouve, enfin, il me semble qu'il y a trois lignes d'analyse qui traversent les médias alternatifs depuis, enfin, que ce soit dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, qui est une critique contre-hégémonique, une critique qui est plutôt basée sur la participation, l'empowerment, etc., etc., et puis une posture plus, je dirais, plus artiste, quoi, une critique plus artiste, que l'on retrouve par exemple dans le cinéma militant,
oui, tout à fait, oui.
De façon très très forte entre les tenants, on va dire, les professionnels du cinéma militant qui sont plutôt dans le témoignage finalement. Puis les groupes de vidéastes militants, Medvedkin et compagnie, Video Out, etc., etc., qui disent oui, mais finalement on reconduit dans le champ de l'information et du cinéma des domaines, enfin, des dominations qui existent par ailleurs, etc. La caméra, faut la donner aux ouvriers, etc., qui eux-mêmes ont filmé leur lutte. Et puis finalement une troisième perspective qui dit oui, on est d'accord avec les participationnistes, mais faire du cinéma, ça se fait pas n'importe comment,
oui.
Et il y a une revendication esthétique derrière, et enfin, par rapport à Internet, on retrouve
oui, oui, tout
les
à
partitions
fait.
De façon
oui, oui, tout à fait.
Donc il y a une espèce à la fois de bégaiement des axes critiques, et de la façon dont on envisage la production alternative d'informations, première chose, et deuxième chose, il y a un point vraiment aveugle sur cette question de la réforme radicale,
oui, non, non.
L'espace public médiatique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, oui.
Et moi, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est en quoi est-ce que, justement, un organisme comme l'OFM a un rôle à jouer? Et en quoi est-ce que, justement, pourquoi l'OFM, pourquoi maintenant, et avec quel rôle?
Oui, alors, moi je crois de toute façon, indépendamment de toutes ces difficultés, de tous ces écueils, effectivement, et toutes ces contradictions qui habitent, disons, les réactions face aux médias, je crois que de toute façon, il y a, par rapport aux autres décennies, c'est un moment historique. C'est un moment historique, c'est-à-dire, il y a un moment... il me semble que, disons, les conditions matérielles font que l'évolution, disons, de tout le champ, finalement, industriel même, de l'information, de la culture et de la communication, finalement, font que il y a la nécessité d'organiser un contre-pouvoir. Je n'aime pas beaucoup le terme contre-pouvoir parce que pour moi, mais disons, un contrepoids. Un contrepoids. Et ça, je crois réellement que c'est un constat que l'on peut faire. C'est un constat qu'on peut faire, justement, à partir aussi, même s'ils sont incertains, si disons parfois on ne les perçoit pas bien dans leurs revendications structurelles, il y a un ensemble d'intuitions, il y a un ensemble de désirs qui surgissent. Dans toutes les sociétés, c'est très intéressant. En Amérique latine, vous comptez un nombre d'observateurs, d'initiatives d'observatoires, par exemple. Alors, ça, c'est une réalité. Le problème, c'est que, il est difficile de mener à, disons, de trouver un lieu, de construire un lieu d'où vous pouvez progressivement construire cette alternative. Bon. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que c'est pour construire cette alternative qu'a été proposée l'idée de l'observatoire. L'idée de l'observatoire, vous vous rappelez, ça a été proposé réellement, ça a surgi au Forum social mondial de Porto Alegre en 2002. convergence entre des gens du monde diplomatique, des journalistes brésiliens ou latino-américains, et finalement aussi l'expérience importante de la seule agence de presse alternative qui est Interpresse Service. C'est très important de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est une initiative qui n'est pas unilatérale, même si ça surgit à l'intérieur du contexte du forum social. Alors,
et là, encore une fois, comme vous le disiez, avec une généalogie spécifique.
Tout à fait.
Les gens qui sont...
Ah oui, là ça je crois que c'est fondamental.
Cette question-là depuis très longtemps.
Depuis très longtemps, ou qui l'ont comme intérêt professionnel. Et si on accompagne, même si l'espace, une petite parenthèse, mais c'est important, effectivement, ça va dans ce sens-là, si on accompagne tous les forums sociaux mondiaux ou régionaux, on s'aperçoit que ce n'est que progressivement qu'ils acquièrent une légitimité dans les thématiques. Mais que ces thématiques qu'ils traitent souvent ne sont pas croisées avec d'autres parce que les autres, pratiquement, en ignorent l'importance. Ou en savent l'importance, mais ils ne savent pas comment s'introduire. C'est très intéressant de voir, par exemple, je me rappelle encore du dernier forum qui a eu lieu à Porto Alegre en 2005, c'est que lorsqu'il y avait un débat de crise, c'était souvent, effectivement, les mêmes personnes qui travaillent déjà dans des réseaux et qui investissent depuis longtemps, même s'il y a un afflux important de nouvelles générations.
Il me semble notamment qu'il y a un manque de dialogue réel et d'espace de rencontre, voire même parfois des confrontations, des inimitiés, etc., assez fortes, entre justement ces initiatives-là portées par des gens qui ont investi la question depuis très longtemps, qui font partie, qui sont des historiques de la question dans le champ des luttes sociales, et puis toute cette nouvelle génération de médias activistes, de vidéo-activistes, etc., qui revendiquent plutôt, un peu rapide de dire ça, mais on va dire plutôt d'obédience libertaire, et y compris au sein des forums sociaux mondiaux ou locaux, les espaces même physiques ne sont pas les mêmes.
Non, c'est tout à fait exact. Là, il y a un problème réel là-dessus. Et là, de nouveau, on retombe sur la question que je touchais auparavant, c'est la question, de toute façon, du détour aussi par la théorie. Et disons, une perception de la théorie qui ne soit pas, le théoricisme. Parce que l'idée du théoricisme dévalue, rend illégitime l'approche théorique. Et c'est une idée complètement populiste. Ça fait partie du registre pratiquement des noms d'oiseaux, des injures. Non, vous êtes théoriciste. Alors le problème, c'est aussi construire une autre idée de la théorie. Disons, construire, c'est très important ça, parce que c'est vrai que, parler théorie pour beaucoup de gens qui finalement n'appartiennent pas à un champ de la production de recherche académique, par exemple, rebutant. C'est-à-dire, c'est tout de suite, peut-être provoquer une réaction, de méfiance.
Mais ce qui est très, très paradoxal, c'est qu'une partie de ce théoricisme-là, il est produit non pas par des gens qui appartiendraient, par exemple, au champ universitaire, et qui viendraient, du haut de leur tour d'ivoire, viendraient observer les médias alternatifs, c'est qu'il est en partie produit par des gens qui ont été des acteurs mêmes et des acteurs centraux des médias alternatifs. Je pense que tout à l'heure, on citait effectivement les expériences italiennes, etc.
Je
suis absolument presque choqué de voir à quel point ils sont dans la capacité de rendre compte précisément, de contextualiser précisément et de tirer les conclusions des expériences vraiment intéressantes.
Oui, non. Mener,
quoi.
Enfin, oui. Non, mais là c'est ce que...
De...
Oui, C'est ce que vous disiez auparavant, disons, je crois que réellement, je crois que de toute façon, il y a dans le mouvement social, et pas simplement dans le mouvement social, mais ici on parle du mouvement social, il y a, je crois, de toute façon, dans toutes les étapes d'interrogation sur les usages démocratiques des médias et des technologies, il y a de toute façon une, disons, le halo, disons, le halo, disons, l'héritage d'une idéologie, disons, d'une idéologie émancipatrice qui relève du déterminisme technique. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte, et je crois que ça travaille, finalement, tous les mouvements. Je crois que ça peut avoir des côtés très positifs, dans la mesure où vous pouvez peut-être imaginer des usages des technologies. On le voit très bien depuis la fin des années 90, depuis Seattle, on voit l'explosion de ça. Mais en même temps, disons, l'important, c'est prendre de la distance par rapport à, finalement, disons, la réelle potentialité de transformer les choses à partir de ces techniques. Et là, c'est toute la question de quelle forme d'appropriation des techniques. Et je crois qu'effectivement, disons, il y a toute cette tendance dans le mouvement social, ça tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Alors, pour revenir à l'observatoire, donc l'observatoire, je crois que correspond, ça je crois, ça correspond à une réalité historique, à un moment historique. La façon dont l'observatoire va, disons, peut se réaliser dans la réalité, d'abord, c'est, il n'y a pas une seule réalité, il y a des réalités différentes. Il y a des réalités où l'observatoire prend une forme et d'autres une autre forme. Une autre forme. Je crois que c'est un travail, je crois fondamentalement, après 2 ans d'expérience de l'OFM, un travail de longue haleine. De très longue haleine. De très longue haleine, parce que, disons, tous ces écueils, finalement, aussi viennent s'interposer dans l'avancée de la construction d'un observatoire. Hein. Bon, alors, je vous disais que l'originalité de l'OFM, c'est, disons, du projet OFM, je ne parle pas oui, je vous parle des observatoires, je ne parle pas seulement du français. L'originalité du projet OFM, c'est quand même qu'il essaye d'unir 3 partenaires. Trois partenaires, c'est-à-dire les journalistes, les chercheurs et ensuite les utilisateurs, mais les utilisateurs entendus aussi comme précisément tous ceux qui produisent d'autres médias. Ça me paraît original, ça. C'est pas seulement original, ça me paraît stratégique. Stratégique. Mais la grande difficulté, c'est précisément de faire dialoguer ces 3 catégories. Parce que là, chaque catégorie a une vision des médias, a un état de conscience sur les médias, même une réflexion théorique ou non sur les médias, souvent très différente. Souvent très différente. C'est vrai que, disons, il y a aussi, ce sont 3 catégories, même si ce ne sont pas des corporations, qui ont aussi, disons, l'héritage, un héritage d'une vision qui leur vient à partir de leur pratique. Et pourtant, c'est fondamental. C'est fondamental parce que tous devraient avoir le même type de préoccupation. Quel est le problème? Qu'est-ce qui est intéressant dans la formule de l'OFM? C'est que finalement, en unissant des journalistes et des chercheurs et des praticiens ou des usagers, je crois que se pose la question finalement des nouvelles sociétés de savoir. La nouvelle question, c'est se pose à travers, c'est-à-dire est reflété par le projet des observatoires. C'est-à-dire que l'interrogation, c'est une interrogation aussi bien de la façon du mode de production de l'information que du mode de production de votre savoir académique, disons, hein, sur le média. C'est-à-dire finalement comment produire un savoir sur les médias et comment engendrer d'autres pratiques professionnelles à partir d'un autre rapport avec la société. Est-ce que je me fais comprendre?
Absolument.
Et ça, je crois que c'est fondamental. Et c'est ça la richesse de la proposition. Alors, vous allez me dire, entre la proposition et la réalité, mais je vous dis, Je crois que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, pourquoi? Parce que l'observatoire n'est pas en soi une organisation. Il n'est pas une organisation en soi. L'observatoire est un lieu où convergent un ensemble d'initiatives qui ont déjà construit le terreau national. Parce qu'on parle d'observatoires nationaux ici. On dit international, c'est toujours facile, parce qu'on va dans des grandes réunions, etc. Non. Ici, le problème de l'observatoire, c'est que l'observatoire s'intègre dans une réalité où il y a des états de conscience différents qui se traduisent par des organisations, tout un tissu ou non, d'organisations qui s'occupent de la critique des médias. Et pas seulement de la critique des médias, mais des initiatives de construction de médias alternatifs. Hein?
Moi, il me semblait qu'il y avait... Enfin, j'ai vu, en tout cas, j'ai perçu la proposition, enfin, l'initiative de l'OFM, je l'ai trouvée tout à fait intéressante, notamment parce que je trouvais qu'il y avait un couplage quasi naturel entre, par exemple, ce qui était fait à Acrimed, qui est très bien fait, c'est-à-dire eux ont de fait avec 10 ans d'expérience, hein, Acrimed c'est 95, ont su sur le territoire français, effectivement, former des gens.
Tout à fait.
La critique des médias est plutôt bonne, je trouve, plutôt intelligente et bien faite. Ils ont eux-mêmes sont un média alternatif foisonnant avec plein de choses, etc. Donc ce travail-là a été fait. Par contre, ils avaient investi de façon forte cette question-là, mais ils avaient laissé de côté tout ce qui était effectivement proposition de réforme justement de l'espace médiatique. Donc ils apparaissaient comme une espèce de d'instance de, on va le dire comme ça, c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais de dénonciation, etc. Et avec des formes de dénonciation bien faites, critiques, enfin, bien construites. Par contre, avec une espèce d'indigence vis-à-vis de... bon, certes, on critique l'affaire, mais comment fait-on pour faire bouger les choses? Et il me semblait que l'OFM était positionné davantage sur ces questions-là.
Ah mais oui, mais c'est ce que...
Et que le lien, justement, avec le champ politique dont on parlait tout à l'heure, faisait partie des prérogatives
de l'OFM. C'est tout à fait le projet de l'OFM. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une organisation en soi. C'est un lieu où convergent un ensemble de... Ici en France, ça c'est très clair, parce que dans tous les pays ça n'existe pas. En Italie par exemple c'est très compliqué, la création d'un observatoire. Disons, où convergent un ensemble d'associations, un ensemble de groupes qui a déjà investi la critique des médias, et pas seulement la critique, aussi la pratique alternative, c'est un lieu où convergent des regards différents. Des regards différents pour que progressivement, ils se fertilisent mutuellement. Mais disons, l'OFM ne dépend d'aucune de ces associations. Les associations font partie de l'OFM. Et c'est collectivement que se construit un projet. Et finalement, que peut-être se corrige, si vous voulez, ou se fertilise mutuellement, ça veut dire que finalement, le projet de l'OFM n'est pas le projet d'Acrimed, comme le projet d'Acrimed n'est pas celui de l'OFM, ou d'autres organisations, comme par exemple l'organisation des radios indépendantes, libres. Vous comprenez, c'est ça. Le projet politique de l'OFM, c'est, disons, replacer, disons, ces actions-là, établir des coalitions qui vous permettent d'intervenir dans le champ des médias. Par exemple, le domaine, qu'est-ce que c'est qu'un service public? Qu'est-ce que c'est que la concentration? Qu'est-ce que c'est que finalement la création finalement de taxes pour financer les médias alternatifs, etc. L'OFM a cette perspective-là. Et sous ce point de vue-là, disons, l'OFM a une personnalité propre qui n'est pas la personnalité de chacune des associations. C'est exactement le projet politique d'OFM. Le problème, c'est que dans la réalité, c'est difficile à construire. C'est difficile à construire parce que c'est la première fois que se mettent ensemble un ensemble d'organisations qui n'ont pas nécessairement la même vision ni de l'action, ni de l'analyse de ce que sont les médias. C'est ça la réalité. Et dans toutes les réalités, s'il y a la possibilité d'organiser des campagnes communes, etc., de toute façon, il faut aussi composer avec cette multiplicité. C'est l'OFM, c'est le regard pluriel. Vous comprenez? C'est un regard pluriel, mais à partir d'un projet qui, du moins à longue échéance ou à moyenne échéance, veut avoir une incidence dans la possibilité d'élaboration, dans la possibilité d'un changement des médias, vous voyez. Et le problème n'est pas seulement le fait que autour de l'OFM sont des associations. L'OFM est construit sur, et d'ailleurs c'est son seul mode de financement, il est construit à partir d'adhérents. Et il y a des adhérents dans l'OFM qui ne font partie d'aucune des associations, mais dont l'intérêt est précisément de se construire individuellement ou collectivement, dans la critique des médias.
D'accord. Et l'articulation, tout à l'heure, on en venait à parler de ça suite à l'expérience chilienne, votre parcours, etc. C'est-à-dire le couplage fort, en fait, la dialectique très forte entre une volonté de changement social et la prise en compte, le rôle des médias dans ce changement social-là. Actuellement, dans le cadre français, par exemple, comment est-ce qu'est envisagée éventuellement cette dialectique et ce couplage-là entre des perspectives politiques, de changement de la société, etc., et puis cette volonté d'investir une question particulière, qui est une question particulière des luttes sociales, qui est celle des médias, mais sans que, sans que ces mobilisations informationnelles-là soient découplées du reste. Parce qu'il me semble qu'il y a, à la fois avec le mouvement altermondialiste, par exemple, des grands événements rassembleurs, une vision peut-être qui se construit des ligues sociales hein, à une échelle plus vaste et une prise en compte d'une multitude de problématiques. Et en même temps, il y a toujours ce problème de la balkanisation des thématiques et de la forte différenciation des thématiques qui reste fortement étanche aveugle.
Mais c'est le problème clé.
Et donc, puisque l'OFM a pour objectif de justement essayer de faire le lien entre, on va dire, le champ politique et le champ médiatique, et d'investir les différentes convergences, les différentes contradictions entre ces deux champs-là, quelles sont concrètement les pistes et les axes que l'OFM veut travailler?
Mais disons que c'est difficile à répondre à votre question parce que...
En gros, pour poser les choses peut-être un peu plus concrètement, dans un mois, il y a des présidentielles. Quel rôle va jouer éventuellement? Enfin, est-ce que l'OFM considère qu'il y a un rôle particulier à jouer en cette période?
Je vous prendrai l'exemple de... des élections antérieures, pas les 2000, pas 2000, comment s'appelaient les autres, les élections européennes. L'intervention de l'OFM a quand même été très intéressante, ils ont interpellé tous les partis sur la façon dont ils envisageaient les questions de concentration, toutes ces questions sur les médias. Il y a eu vraiment, et même tous les partis ont répondu à ces questions. Donc, il y a, des formes d'action qui sont aussi des interpellations. Et ça a été des interpellations. Et la preuve, c'est que les partis ont répondu. D'accord ? Je crois que, disons, l'OFM a essayé de, disons, d'interpeller aussi sur la question de la concentration. La question de la concentration est un problème qui a... ça a donné lieu à un rapport, vous l'avez vu d'ailleurs, non?
Oui.
Moi, je crois que l'OFM, pour le moment, dans cette étape actuelle, je crois que la seule façon de progressivement construire une conscience citoyenne des médias, c'est d'intervenir à partir de dossiers particuliers. De dossiers particuliers, tout en y associant les adhérents et des équipes, vous comprenez, ou des équipes qui s'auto-instituent autour du problème de la précarité des journalistes, autour des problèmes, disons, que pose le traitement de la crise, le problème de la concentration, etc. Moi, je crois, dans cette perspective, pour le moment, c'est d'accompagner toutes les initiatives qui vont vers la transformation de la structure des médias, c'est-à-dire, par exemple, la légitimation d'un troisième secteur, toutes les initiatives qui vont vers l'interrogation du service public, et toutes les initiatives qui, finalement, s'interrogent sur ce que j'appelle le processus de privatisation des médias, de concentration, etc. Ce sont les trois domaines fondamentaux. Et ça, ça me paraît complètement nouveau, ça. Parce que je crois que dans l'histoire de la communication, disons, dans l'histoire des alternatives, jusque maintenant, jusqu'il y a peu en tout cas, la problématique était considérée chaque fois comme des enclaves. Et rappelez-vous, longtemps, le mouvement des radios ou des télévisions alternatives ou communautaires dans plusieurs pays s'enfermait dans cette problématique alternative. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une rupture par rapport à toute cette pratique, et ça on le voit très bien dans des continents qui sont plus avant-garde que d'autres, c'est qu'aujourd'hui, la contestation de l'ordre médiatique ne peut pas se contenter simplement d'analyse ou de monitoring, si vous voulez, critique, ça doit prendre en compte tout ce côté structurel et engendrer, disons, et éveiller la formation, stimuler la formation, finalement, de pression pour que change cette structure. Je crois que il y a déjà des... Je crois que cette... peut-être qu'ici en France, nous avons difficile de créer ce front. Parce que le problème n'est pas simplement d'associer des gens du mouvement social, c'est d'associer des citoyens. Si je regarde l'Amérique latine, par exemple, je travaille pas mal là-bas, il y a de plus en plus d'initiatives. Les radios alternatives participent de plus en plus, à côté d'autres acteurs sociaux et professionnels, pour la modification, finalement, de la structure du système médiatique, à partir de ces trois pôles, pour la légitimation des radios libres, pour la création, parfois, d'un service public, et pour la régulation du secteur privé. Avec des flux et des reflux, ce qui montre la difficulté aujourd'hui de faire passer de telles réformes. Et pourtant, c'est des réformes dont on va en avoir besoin dans l'avenir. Sinon, c'est bien simple, on peut se dire que le système médiatique sera un système vraiment de domination absolue. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, je crois que toutes ces initiatives sont en train de fleurir, avec des succès multiples, ou avec des échecs aussi. On voit bien, par exemple, au Mexique, malgré l'appui de certains parlementaires et de l'ensemble de la société civile pour une réforme de Televisa, Televisa vient de triompher, du moins temporairement. Alors, je crois que c'est ce qu'il faudrait progressivement produire en France. Ils ont arrivé progressivement à articuler toute cette réflexion. Mais je dois vous dire qu'en France, il y a quand même un problème clé, qui est un problème de type presque, qui appartient, qui est un habitus culturel, l'habitus de la culture française, c'est que, disons, la question des médias, la question des médias est un problème comment pourrait-on dire, c'est un problème disons, toute intervention, toute réflexion critique sur les médias est susceptible d'être, interprétée comme une tentative de contrôle des médias. L'Observatoire n'était même pas créé qu'il y avait des articles dans la grande presse française sur l'Observatoire comme finalement reproduisant, disons, le projet de commissaire à l'information. Je crois qu'il faut tenir compte aussi, et ça je crois que ça me paraît important, non seulement de l'état d'avancement ou du terreau d'associations qui agissent sur les médias, réfléchissent sur les médias, il faut aussi tenir compte des contextes culturo-politiques. Comment finalement un ensemble de représentations collectives se sont créées qui aussi peuvent être un obstacle à la perception des initiatives qui essayent finalement de réfléchir pour une transformation du système médiatique. Vous me comprenez là? Ça c'est très important. Le problème de la culture est fondamental. C'est des éléments culturels et politiques ça. Et je crois que le problème des médias en France, même si les gens ont aussi leur propre réaction négative par rapport aux médias, est un problème. C'est un, disons, c'est une zone sensible. C'est une zone sensible où il est difficile, disons, d'intervenir. Il est difficile d'intervenir parce que de l'establishment journalistique ou politique, il y a tout de suite l'objection, vous êtes antidémocratique. Il y a même des livres qui reprennent cette hypothèse aujourd'hui. Vous comprenez? Et de l'autre côté, du côté des gens qui essayent de faire quelque chose, de construire quelque chose, vous savez très bien, il faudra ajouter tout ce que j'ai dit sur toutes les contradictions que nous devons affronter lorsque nous créons une organisation comme l'Observatoire. Les tendances de certains disons, au populisme, d'autres au théoricisme, à la théorie ou au théoricisme. Vous comprenez? Vous me comprenez? Et là, vous avez réellement le cadre socio-anthropologique dans lequel un observatoire doit travailler. Et je vous parle du cas ici concret de la France, où il y a un terreau important qui n'arrive pas fondamentalement, qu'il faudrait articuler, c'est aussi le but des états généraux de l'information qui devraient être organisés, mais regardez, il y a des pesanteurs, il y a des héritages, il y a aussi, pourquoi pas, et il faut le dire, des défenses d'intérêts d'organisations par rapport à d'autres, etc. Vous voyez, ça fait partie des luttes politiques aussi, vous le savez très bien. Non, il n'y a pas que dans les partis. Hein? Et c'est ça la difficulté. Mais je crois sincèrement, et c'est pour ça que j'ai commencé par cela, je crois que le moment historique est venu. Je ne sais pas réellement quelle forme vont prendre ces articulations. Je crois que ce sera un travail long. Et je crois un travail où il faut s'engager. Et ce n'est pas évident. Parce que je crois que réellement, dans ce travail sur les médias, travail critique sur les médias, comme sur autre chose, sur les prisons, etc., mais sur les médias, c'est encore pire, c'est encore plus difficile, je crois qu'il est difficile d'obtenir un engagement constant des gens, des citoyens. Un engagement constant qui demande quand même un effort intellectuel important. Observer les médias, ne fût-ce que observer les médias, ou comprendre ce qui se passe dans le champ des médias, ça demande un investissement intellectuel, un apprentissage mutuel sur finalement qu'est-ce qui est l'enjeu médiatique.
D'accord. Ça j'ai envie de dire que c'est quasiment de toute façon une chose qui traverse toutes les luttes sociales actuellement, les formes d'engagement, les formes de mobilisation collective.
Tout à fait.
et cette espèce de, enfin, d'engagement distancié, pour reprendre les termes de Jung sur...
Oui, mais disons, ici, aggravé par le fait que le domaine des médias a rarement été occupé centralement, n'a pas eu la place centrale qu'il aurait dû avoir dans la réflexion sur le changement politique.
Absolument.
C'est ça le problème. Même si, effectivement, vous avez des germes partout, mais des germes très contradictoires, parce que des germes très isolés. C'est vrai, en fait, quand on regarde l'expérience de Radio Alice et de tout ce mouvement italien, c'est vrai qu'on pourrait tirer des leçons de cette expérience et arriver finalement à construire, disons, à ne pas répéter chaque fois le même scénario. Et c'est la problématique de l'OFM, c'est, je parle des observatoires, hein, on ne peut pas prendre l'OFM, parce que l'OFM, je ne tiens pas vraiment à célébrer comme ça l'OFM. Non, on fait son boulot, on essaye de faire le boulot. Non, je crois que c'est précisément de ne pas répéter le même scénario. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des pesanteurs de tout type pour faire avancer ces initiatives. À commencer par un problème bien pratique, c'est le problème du financement. Problème du financement. Une organisation qui refuse d'emblée des formes de liens avec des financements, fondations, etc., etc. Hein, vous savez que c'est le grand débat à l'intérieur du mouvement social, des mouvements sociaux, puisque certains sont même liés parfois à l'étranger avec la fondation forte, qui leur finance des projets. Vous comprenez ? Nous, on refuse ce type, on refuse ce type, disons, de financement, et le financement ne vient que des adhérents. Alors c'est un problème clé, ça. Parce que un observatoire, concrètement, devrait avoir quand même quelques permanents. Nos permanents sont des volontaires. Vous voyez par où ça commence ? Ça, c'est des problèmes techniques éminemment importants. Je trouve que, en fait, une des premières actions d'observatoire, ce serait de se légitimer comme institution publique. Arriver à faire comprendre que le CSA ne remplit pas la mission qui devrait être la sienne, et qu'il ait besoin d'organisations citoyennes pour intervenir dans le débat démocratique sur tous ces aspects structurels du système médiatique comme fondement d'un nouveau type de société, parce que ce n'est pas simplement le système médiatique, c'est tout l'ensemble d'une interrogation sur la culture, l'information, etc. Je crois que ce serait important. Mais le problème, faire mûrir l'idée qu'il est nécessaire, parce qu'on le sent historiquement, qu'il est nécessaire finalement qu'un type d'organisation de ce type, un type d'organisation comme celle que propose l'Observatoire est fondamental pour la vie politique. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je crois fondamentalement que vous qui avez étudié les nouveaux réseaux et tout ça, qui vous occupez beaucoup de nouvelles technologies, vous savez très bien que, en plus de tous ces problèmes concrets des contextes, il y a aujourd'hui de plus en plus un obstacle pour la mobilisation quotidienne, parce que c'est ça aussi, la mobilisation quotidienne des citoyens. C'est que de plus en plus, ce type de problème sur les médias, c'est pas simplement la façon dont les médias traitent telle information, la crise, je ne sais pas moi, ou un attentat en métro, une agression antisémite, etc. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une vision structurelle sur comment finalement, pourquoi est-ce qu'il faut se poser la question de l'évolution du service public, la question de la légalisation d'un troisième secteur, toutes les logiques qui travaillent, le secteur privé, etc. Toutes ces questions sont éminemment complexes. Et ce n'est pas un vain mot. Qu'est-ce que ça veut dire complexe ? Ça veut dire qu'elles sont de plus en plus liées à un domaine technique, un domaine que l'on dit technique, et, disons, au domaine juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, pour répondre à la question que vous me posez et qui est celle de l'OFM comme essayant de structurer les choses, il faut abandonner, ou en tout cas, oui, abandonner, disons, la seule vision du média, de la critique des médias comme critique de l'information. Il y a le problème aujourd'hui, finalement, d'un problème structurel qui est à répondre à ce problème. Et c'est là le côté politique de l'OFM. Alors, le projet existe, je vous redis, je ne sais pas comment progressivement ça va évoluer. Ça prendra peut-être d'autres formes, parce que peut-être d'autres mouvements prendront aussi la relève, et progressivement, peut-être les alliances à l'intérieur même de l'OFM, avec la fertilisation réciproque, parce que moi je compte quand même beaucoup aussi sur, disons, les investissements antérieurs réalisés par des organisations multiples de critiques des médias. C'est fondamental ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que l'OFN a un autre projet. Il a ce projet, mais aussi il a un autre projet qui est précisément de mettre sur le tapis les enjeux structurels. Et ça, c'est très très difficile pour la bonne raison que je crois qu'on pâtit aujourd'hui d'un héritage complètement négatif dans les mouvements qui se sont opposés à l'establishment de réflexion sur cette question-là.
Moi, j'en vois un autre éventuellement. Enfin, on en parlait en creux, c'est que la prise en compte de cette question des médias d'un point de vue politique, elle est essentielle, elle s'est assez peu faite. Et si elle s'est assez peu faite, c'est parce que le lien justement avec des projets de société, des programmes, etc., c'est très peu fait. Et que finalement, enfin, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. C'est là que ça coince quand même. C'est-à-dire que la prise en compte et la prise en charge politique de la question des médias, pour que ça ait effectivement que ça démarque, ça coince, qu'il y ait une émergence autour de ça, il faut la lier à des luttes sociales plus vastes, et il faut la lier à une vision de la société plus vaste. Et si un autre monde est possible et une autre formation est possible, et si on est tous d'accord pour dire ça, le désaccord vient après, c'est quel type de monde, quel type d'information.
Oui, évidemment, non, c'est sûr.
Et est-ce que ce projet-là ne pâtit pas finalement de aussi, enfin, tout simplement de des visions politiques très...
C'est ça la grande difficulté, de faire coexister des visions, des regards différents autour d'un projet pluriel. Disons, de réflexion et d'action sur les médias.
Parce que, enfin, pour parler clair et un peu concrètement, moi je sais que par exemple à la LCR, on serait tout à fait prêt à travailler cette question bien plus qu'on ne le fait, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas du tout quasiment, et d'intégrer vraiment cette dimension-là de façon forte au programme, au manifeste, etc., etc., mais que par ailleurs, il y a une espèce de réticence très forte, parce que derrière l'OFM, on y voit des personnes et qui sont absolument contre et complètement rétifs au projet de société qu'on peut défendre. Donc il y a une espèce là qui est classique sur les mobilisations, les luttes sociales, et la façon dont ça se passe, mais...
Mais ça, c'est, disons, c'est à tous les niveaux, ça. Hein.
Ah oui, oui.
C'est à tous les niveaux. Alors moi, de toute façon, moi qui suis en dehors de tout ce, disons, qui essaye de m'abstraire en tout cas, oui, sans pouvoir toujours le faire, de m'abstraire de tous ces héritages aussi, parce que l'OFM hérite aussi de ce terreau, avec les conflits de ce terreau. Mais ce qui est formidable quand même, malgré tout, c'est que nous avons réussi à dialoguer avec des syndicats et faire entrer des syndicats de journalistes dans un lieu, les faire accéder à un lieu où on peut discuter, on peut dialoguer. Faire dialoguer les syndicats, des groupes qui travaillent sur la critique des médias comme Acrimed ou autres, c'est déjà important. C'est déjà important. Évidemment, ça doit être dépassé. Ça doit être dépassé. Mais n'empêche que, par exemple, disons, la confluence, disons, la convergence des syndicats vers l'OFM est importante, parce que ce sont quand même aussi des acteurs dans la stimulation, disons, de revendications, de projets, etc. Mais pas seuls. Bon. Je crois que vraiment, c'est, disons, l'OFM hérite et doit dépasser cet héritage, qui est en même temps, qui a une partie positive et une partie négative, c'est-à-dire négative dans le sens où ça peut devenir des écueils pour sa progression. Mais je crois qu'il fallait au-delà, maintenant, on verra comment ça va évoluer, ça. On va voir comment ça a évolué. Mais moi, je suis préoccupé par une autre chose, parce que là, ça fait partie du même problème, mais disons, c'est un autre volant. C'est que moi, je suis surpris par l'analphabétisme du monde politique, et concrètement, de nos représentants sur toutes ces questions-là. On a vu très nettement, lors du débat sur la licence globale, combien de ceux, ça c'est extrêmement concret, combien de ceux qui réagissaient en connaissance du dossier. Il y en a beaucoup, et ça paraissait formidable à tout le monde, que beaucoup réagissaient parce qu'ils ont des enfants ou des petits-enfants qui manient maintenant l'informatique ou l'ordinateur. Vous vous rappelez de ça, tous ces commentaires? Eh bien, c'est quand même très intéressant, mais en même temps très inquiétant de voir que... Et c'est pour ça que je vous parlais de cet aspect juridique et technique qui fait partie du problème, sans vouloir se limiter à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'OFM, et je crois vraiment que c'est le projet de l'OFM, celui-là, je ne sais pas si on a les forces suffisantes pour réaliser le projet, je crois qu'il faudra le temps, c'est de créer une autre culture, une autre culture sur les médias, une autre écologie, une autre culture qui participe à une autre écologie des médias. C'est-à-dire que finalement, à un moment déterminé, disons, ce soit important, disons, de contrer des rapports officiels, comme le rapport sur la concentration. On a essayé de le faire. Qui est-ce qui prend la parole aujourd'hui sur le rapport Lancelot? Qui vient vous dire, en fait, pas de problème au niveau de la concentration. Nous sommes encore, par rapport à d'autres pays, des enfants de cœur. Vous comprenez? C'est là. C'est le problème de l'Observatoire, c'est dépasser aussi les clivages de tous ceux qui... critiquent les médias qui finalement sont investis dans la création d'un nouvel espace médiatique pour essayer finalement de généraliser une façon de voir le système médiatique. Et ça sans nécessairement, disons, vouloir faire du prosélytisme. Je ne sais pas, mais ça, je crois que c'est ça le projet. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est réellement qu'à tous les échelons, et pas seulement ici, on s'éloigne un peu du mouvement social, etc., à tous les échelons, il y a une inculture sur ce problème. Vous allez me dire que c'est dans beaucoup de domaines. Mais ici, le problème médiatique est central. Pourquoi est-ce qu'il est central? Parce que le problème médiatique en France est un problème où il y a énormément de susceptibilité par rapport à une histoire du contrôle de l'information. Ça, c'est important. Et ensuite, parce que finalement, le domaine médiatique, et ça, vous le savez très bien, je vous l'ai enseigné pendant longtemps, que de toute façon, le problème des médias ici en France est un problème qui a pris des années pour être reconnu comme légitime. Et que finalement, aujourd'hui encore, malgré le fait que ce soit devenu un problème de société, il pêche encore dans de nombreux milieux intellectuels de gauche ou de droite d'une non-reconnaissance de la légitimité. Vous comprenez? Ce n'est pas un domaine où finalement c'est un domaine qui, comme je le dis, qui finalement n'appartient pas encore aux reconnaissances nobles. Vous comprenez? Et donc, alors vous aurez des interventions un peu de tous les côtés. Mais le problème, la prise à bras-le-corps de ce problème par les intellectuels qui le prennent à bras-le-corps, eh bien, est minoritaire. Je ne sais pas si vous êtes confronté avec moi, mais il y a un problème clé, là.
Ça fait une transition tout à fait, tout à fait forte avec la deuxième thématique qui était une des deuxièmes un des deuxièmes objectifs de ma venue ce matin, c'était effectivement la question des sikhs et puis et finalement la question qu'on se pose nous c'est pourquoi finalement dans le champ des sciences de l'information et de la communication la pensée critique a disparu alors qu'il nous semble qu'à un moment elle était justement portée par ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de légitimer des acteurs émergents qui étaient les médias, les industries culturelles, etc., etc., qui avaient un rôle primordial à jouer dans l'assise des sociétés capitalistes avancées, et que finalement ce projet-là a été perdu de vue et que...
Je ne tiens pas à recommencer, hein.
Non, c'est bon.
Ça va.
Au niveau de l'heure, vous me dites...
Oui, encore un quart d'heure, ça va.
D'accord. Ouais. Et que finalement, ce projet-là a été complètement perdu de vue et a disparu. Et un des signes de cette disparition, c'est que la pensée critique au sein de ce champ-là, elle n'existe plus.
Je crois de toute façon que, bon, même si je suis d'accord globalement avec ce que vous me dites, je crois que de toute façon, il y a quand même, même si ce n'est pas des logiques fortes, des tendances fortes, je crois qu'il y a quand même, disons, une variété d'approches critiques individuelles qui sont en train d'apparaître. Disons, je crois que c'est très isolé, mais je crois que c'est quand même important. Par exemple, le fait qu'on en discute à partir déjà de gens qui s'en inquiètent, et je vois très bien même l'évolution même de la génération de mon fils, il y a quand même des gens qui sont conscients, qui prennent conscience de ça. Je crois que c'est très important, parce que c'est quand même des semences. C'est des semences d'interrogation. Quant à, disons, le reflux, finalement, d'une perspective critique dans les sciences de l'information et de la communication, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et disons, ça va aussi accompagner du... Si les nouvelles générations apportent aussi de nouvelles problématiques, comme celles qui paraissent sous-tendre ce manifeste, les nouvelles générations, d'anciennes générations vont disparaître, qui ont été pionnières dans les visions critiques et qu'elles ne sont pas remplacées. Je ne dis pas remplacées simplement pour suivisme, non, mais disons, qui reprennent ces flambeaux, si on peut dire, et finalement les mènent plus loin. Regardez, par exemple, dans le champ de l'économie politique. L'économie politique, c'est vrai, se construit, mais ça se construit à partir d'enclaves. Vous comprenez? Et que finalement, les tendances lourdes de l'évolution des sciences d'information et de communication ne vont pas par là. Moi, je crois que, de toute façon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Ils sont multiples, les facteurs. Il y en a de ceux qui sont des conséquences, il y en a d'autres qui sont des causes. Il y a le fait, le branchement des sciences de l'information et de communication sur des visions de plus en plus pragmatiques, de plus en plus empiristes, qui fait que finalement il y a de moins en moins d'interrogations sur même sur des enjeux épistémologiques, et pas seulement des enjeux épistémologiques, des enjeux politiques effectivement. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, disons, le champ des sciences d'information et de communication, qui avait commencé comme héritier finalement d'une vision critique, finalement. Rappelez-vous le rapport que j'avais fait avec Sturze, qui n'était pas un produit personnel, qui était un produit de toute une communauté. Le problème, c'est que la notion de communication est devenue un enjeu tellement important dans l'organisation de l'ordre social, que finalement, elle a été projetée, elle a été projetée, disons, s'en sont emparés des secteurs qui l'ont de plus en plus amené vers, finalement, des visions pragmatiques. Je crois, par exemple, que l'entrée en force de la communication empresariale a été une porte importante vers cette dérive. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il n'y a pas simplement un domaine en particulier. C'est que dans tous les domaines, il y a de plus en plus des visions opératoires pratiquement. Même un opératoire qui ne débouche pas dans la réalité, qui n'est pas applicable dans une entreprise, etc. Mais il y a une vision opératoire, c'est-à-dire une vision qui oublie de s'interroger sur, finalement, des questions essentielles. Des questions essentielles, quel rapport avec, finalement, l'ordre social, l'évolution des modes de contrôle sociaux, de régulation, etc. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, finalement, beaucoup d'approches en sciences de l'information et de communication ont renoncé à la question qui a été centrale dans la formation même des pensées communicationnelles à travers le monde, c'est qu'est-ce que c'est que le rapport entre la communication et les stratégies de changement social. Le changement social devient une question pratiquement, c'est réduit à finalement des évolutions métaboliques. Et homéopathique, vous comprenez? Et donc, la question fondamentale, et qui a été oubliée, c'est le problème du pouvoir, le problème des rapports de force, le problème des cultures comme champ de rapports de force, aussi bien local, national qu'international. On est tombé dans... Le problème, c'est qu'on est tombé dans un mythe individualiste, dans un mythe d'individualisme qui est complice avec finalement des visions très néolibérales finalement de la liberté du consommateur souverain face à tout ce qu'il à tout son environnement, qu'il soit médiatique ou autre. Il me semble en tout cas, il y a tout un contexte qui ont motivé cette transformation. D'ailleurs, on sentait très bien déjà dans les années 80, les nouveaux paradigmes, vous vous rappelez les paradigmes qu'on appelait l'abandon du paradigme de la mécanique, l'émergence du paradigme du fluide. On voyait l'ambiguïté, ça. L'ambiguïté, par exemple, autour de les ambiguïtés de la définition de ce que c'était qu'un système décentralisé en matière de communication. Vous vous rappelez tout ça? Eh bien aujourd'hui, le problème c'est que l'ambiguïté semble s'être résolue à partir du côté ambigu précisément de ces paradigmes. C'est-à-dire que tous ces paradigmes qui sont des paradigmes producteurs par exemple sur la réception, sur les usages, etc., producteurs finalement d'une nouvelle pensée communicationnelle qui va en phase avec les interrogations que se posent sur l'évolution de la démocratie, la participation des citoyens, tout cet aspect des nouveaux paradigmes finalement tend à s'estomper par rapport à ce côté pragmatique de l'avancée finalement des recherches et des réflexions sur la communication. Mais tout ça, je précise tout de suite, je n'ai pas une vision apocalyptique de ça, mais je crois qu'effectivement, c'est un problème clé, et je crois que c'est aussi un problème que vont devoir prendre à bras le corps, peut-être aujourd'hui, des secteurs minoritaires à l'intérieur de votre génération qui sont fondamentaux. Parce que, écoutez, c'est un problème général, de toute façon. Ce n'est pas simplement le problème des sciences de l'information et communication. Je me permets de vous le dire. Quand je vois la façon dont évoluent certaines universités, je n'en nomme aucune parce que je ne tiens pas à avoir tout le monde derrière moi. Écoutez, quand on voit disparaître aujourd'hui tous les grands philosophes, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, indépendamment de ce qu'on peut penser de lui, de Lyotard, etc. Il y a des tas de générations qui sont en train de partir. Et finalement, dans les universités où ils étaient, dans les lieux où ils étaient, ils ne sont pas nécessairement remplacés. Vous comprenez? Et c'est un problème aujourd'hui. C'est un problème aujourd'hui, non pas ce n'est pas un problème de nostalgie, c'est le problème de régénération de la critique à partir aussi de nouvelles générations. De nouvelles générations, vous voyez. Je crois que c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'une initiative de ce type, de réflexion critique sur finalement l'évolution du champ, me paraît fondamentale. Et je crois réellement que ce sont les nouvelles générations qui peuvent s'en emparer. Nous autres, nous pouvons, vous accompagner, mais disons que c'est votre travail, c'est votre champ aussi.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est important. Et je crois, moi, écoutez, quand je vois l'évolution du champ par rapport aux problématiques qui ont été discutées par toute la communauté, c'était pas simplement un rapport de gens critiques, sortis des gens de l'école de Francfort, etc. Et l'évolution entre ce diagnostic et la réalité aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais ça a beaucoup changé partout dans le monde. Et c'est ça que je vous dis, redis, le problème, c'est que l'ambiguïté, ça a commencé à se résoudre dans le sens finalement, de l'ambiguïté. Tout ce que je peux vous dire.
Écoutez, parfait.
Si vous voulez avoir d'autres informations, j'ai déjà répondu parfois à des entretiens sur l'évolution des sciences de l'information et de la communication, mais je comprends très bien, votre préoccupation est beaucoup plus au pied du mur, là. Hein. Vous me posez une question au pied du mur, là. Hein?
Oui,
c'est une question qui vous semble existentielle pour vous en plus.
Oui, enfin, c'est vraiment issu de... Oui, c'est une question qui effectivement vient de situations vécues.
Non, mais vous avez... Mais qui est celle de beaucoup d'étudiants. Regardez, parmi mes propres étudiants qui sont en DEA ou qui sont en doctorat ou qui sont sortis de doctorat, il est évident que la question de la précarité est une question aussi qui devrait traverser finalement nos préoccupations. Ça me paraît élémentaire. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait un groupe aussi à l'OFM. Mais, oui, non, c'est... Non, je crois qu'en lisant, parce que je fréquente pas mal, disons, ce qui circule à travers le monde à partir du champ revendiqué comme des sciences d'information et communication, je crois que réellement, il y a un problème clé en plus au niveau... Je crois qu'il y a un problème épistémologique, de définition épistémologique, disons, de réflexion épistémologique. Je ne parle pas de définition du champ, de réflexion épistémologique. Je crois que de plus en plus, nous allons vers des recherches qui sont de véritables catalogues. L'idéologie du catalogue, vous comprenez, où vous ne voyez pas quel est le principe d'ordonnancement, finalement, qui mène votre recherche.
Est-ce que... Enfin, moi, j'ai une hypothèse là-dessus, mais... C'est qu'effectivement le beau principe et c'est vrai quand vous par exemple vous rendez compte de votre parcours, etc., du passage par la démographie, de cette nouvelle chose finalement, ce nouvel objet qui rassemble des personnes très différentes, avec des points de vue différents, mais qui travaillent sur un même objet, et le côté interdisciplinaire, on en voit toute la richesse, il est porteur d'espoir, etc. Je trouve la manière dont il a été. Donc il a été traité dans le champ des SIC, en tout cas en France, pour ce que j'en connais, c'est qu'effectivement, c'est que ça a débouché sur ce catalogue.
Oui, oui, tout à fait.
L'idée, parce que l'épistémologie interdisciplinaire, elle est portée par qui aujourd'hui et comment, et concrètement.
Oui, tout à fait. Mais c'est exactement la même évolution, vous vous rappelez l'analyse que j'en faisais avec Eric Neveu, c'est la même évolution dans les culturales.